Bonjour, c'est Aude Vernuccio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Il a longtemps été réputé pour être un petit pays tranquille en Amérique latine, coincé entre le Pérou et la Colombie. L'Équateur a récemment basculé en état de conflit interne armé, selon les mots de son président.
Équatoriens, le temps où les narcotrafiquants, les sicarios et le crime organisé dictaient leurs lois au gouvernement est révolu. Je viens de signer un décret pour instaurer l'état d'urgence et donner au pouvoir policier et militaire la possibilité d'agir. Nous ne négocierons pas avec des terroristes.
La déclaration du président Daniel Noboa après une montée des violences sans précédent, gardien de prison, retenu captif, prise d'otage de journalistes en direct, évasion d'un chef de gang de prison. Comment expliquer cette récente descente aux enfers? On en parle maintenant dans Focus. Tout a commencé le 7 janvier dernier avec l'évasion d'un des chefs de gang de narcotrafiquants les plus dangereux du pays. José Adolfo Macias Villamar, alias Fito, s'évade d'une prison de haute sécurité à Guayaquil, chef du gang des Choneros. Il est condamné à 34 ans de prison. S'en suivent de multiples émeutes dans les prisons où les agents pénitentiaires sont séquestrés et menacés d'exécution. Pour la première fois, des actions de violence coordonnées éclate dans tout l'Équateur. 9 janvier, de jeunes narcotrafiquants font irruption sur le plateau d'une chaîne de télévision et prennent en otage en direct des journalistes et des employés de la chaîne. Une démonstration de force aux airs de saison 4 d'une certaine série qu'on connaît bien. La série Narcos de Netflix. Avec nous pour en parler, Eric Sanson. Bonjour Eric.
Bonjour Aude.
Tu es le correspondant de RTL en Équateur. D'abord, je crois qu'il est nécessaire de rappeler qui est ce fameux Fito dont on parlait et qui a accéléré l'escalade des tensions.
Alors, c'est un homme qui est né dans la ville de Manta, sur la côte équatorienne, dans la province de Manabí, il y a 44 ans. On ne connaît pas trop ses origines plutôt humbles. Il est monté au sommet de la hiérarchie du groupe des Choneros après la mort de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, qui était le leader des Choneros, qui a été assassiné dans un centre commercial de Manta. À l'époque, deux hommes se sont partagés le pouvoir, donc alias Fito et Junior Roldan, alias JR. Mais ensuite, il y a eu une division au sommet du groupe. JR a été assassiné et Fito est devenu le seul leader de la bande des Choneros. C'est un homme qui est très puissant dans le pays puisqu'il est à la tête d'une bande dont on pense qu'elle a entre 12 000, 15 000 homme en armes, ça commence à faire beaucoup.
Il était incarcéré depuis 2011, Fito, mais en réalité, il gérait ses affaires depuis une prison de haute sécurité.
Ah oui, oui, ça s'est connu depuis des années, en fait, lui et d'autres. Hein. Mais les prisons ont été prises par les gangs, par les bandes de délinquance organisées, comme on les appelle ici, qui font un peu ce qu'ils veulent. Le service pénitentiaire a été noyauté, donc soit les gens sont achetés, soit ils sont menacés, ils reçoivent des photos de leur gamin à l'école, etc., pour que donc les prisonniers puissent, grosso modo, faire ce qu'ils veulent. On a eu depuis deux ans et demi, une série d'une douzaine de massacres entre bandes qui se disputent le pouvoir dans les prisons. Il y a eu plus de 600 détenus qui ont été exécutés. Ils ont des objets de luxe, ils ont Internet, ils ont des téléphones, etc. Donc ils gèrent en fait leurs affaires et on estime que 80% des ordres pour extorsionner, pour assassiner, etc., partent des prisons. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a vu. Il y a un exemple qui est clair et net que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous pouvez faire prison de Turi, T-U-R-I et piscine. Et vous allez voir qu'il y a quelques années, ils ont eu un peu chaud dans la prison de la ville de Cuenca dans les Andes. Et donc, ils ont bouché tous les trous de leur patio, là où ils se promènent, là où ils font du sport. Mmh. Et ils l'ont transformé en piscine. Tout ça, évidemment, sous les yeux de l'administration pénitentiaire. Ça vous donne une idée qu'en fait, ce sont eux qui ont le contrôle, qui avaient le contrôle. Parce que maintenant, les militaires sont dedans et ils sont énergiques pour le reprendre.
Et on va y revenir. D'ailleurs, fait absolument inimaginable, le fameux Fito a permis le tournage du clip d'une chanson chantée à sa gloire par sa propre fille et par un groupe de mariachi dans cette fameuse prison de Guayaquil. course du lion interprétée par la fille de Fito, Queen Michelle, qui parle de son père comme d'un homme au grand cœur, qui tend la main au peuple et qui protège sa famille. On peut pas s'empêcher, en écoutant ça, de faire le lien avec Pablo Escobar en Colombie dans les années 80, qui se présentait comme un Robin des Bois. Eric, aujourd'hui, Fito, c'est une personnalité influente. En Équateur, il est considéré comme ayant un certain pouvoir charismatique.
Alors déjà, physiquement, c'est un homme impressionnant. Il est grand, il a un gros ventre qui déborde, il a une barbe à la Père Noël, non, une barbe noire gigantesque. Non, mais au-delà de ça, au-delà de son physique qui est impressionnant, il fait peur. C'est un homme qui est extrêmement dangereux. On le sait, les narcos ont des réseaux d'influence partout. Le narco a pénétré un petit peu toutes les sphères du pays, que ce soit la politique, la justice, etc. Et donc, on a très peur de lui. Donc, son influence, elle est exercée indirectement. Mais depuis deux semaines, c'est lui qui fait un peu danser l'Équateur au son de son évasion. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il est charismatique, mais en tout cas, il fait très très peur dans le pays. Et c'est un nom que les gens ne connaissaient pas vraiment il y a quelques semaines, sauf les spécialistes, et qui est maintenant sur toutes les lèvres.
Au-delà du cas de Fito, Eric, déclaré ennemi public numéro un, c'est bien le système équatorien qui est au bord du gouffre, avec des institutions en crise et des gangs qui ont pris le pouvoir, au moins dans la rue et dans les prisons. Et ça, la population, les pouvoirs publics s'en sont vraiment rendus compte après une grande enquête baptisée Opération Métastase.
Quand vous parlez de métastase, c'est le nom qu'a donné le parquet à cette opération lancée il y a quelques semaines, et c'est tout à fait ça. C'est un cancer qui d'abord avance lentement, donc c'est une maladie, on sent rien, on a pas mal, et ça c'est ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, quand les principaux groupes de narcotrafiquants commençaient à pénétrer le pays, tout doucement, à corrompre à droite à gauche un militaire, un policier, et puis petit à petit, ben, le cancer se développe, et là ça commence à faire mal. Donc déjà l'an dernier, on a eu un candidat présidentiel assassiné une semaine avant le premier tour. Mmh. Ensuite, les 6 tueurs à gages qui avaient été capturés rapidement par la police sont à leur tour assassinés en prison. En prison, le gouvernement n'a pas pu les protéger en prison. Donc déjà ça, les gens se sont dit, c'est pas possible. Et ensuite, l'opération Métastase lancée par le parquet a exploité les téléphones portables d'un autre narcotrafiquant qui s'appelle ou s'appelait Leandro Norero, alias le patron, ils aiment bien se faire appeler le patron, qui a été, on pense, tué l'an dernier dans une révolte de prison. Et je dis on pense parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'en fait il a simulé sa mort, qu'il serait encore vivant parce que le corps a été reconnu par la police, mais il n'y a jamais eu de prise d'empreintes ni de test ADN. Donc il y en a qui disent qu'en fait il n'est pas mort, on verra. Mais en tout cas, ces téléphones portables ont montré qu'il avait un réseau et qu'aujourd'hui ils sont actuellement en prison. Par exemple, l'ex numéro 1 du Conseil national de la judicature qui nommait les juges, un général à la retraite qui commandait la police équatorienne antidrogue, des juges, des avocats, des procureurs. Donc les gens ont enfin compris que c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire un narco-État ? Eh bien un narco-État, c'est ça.
Ces gangs, ils répondent aux ordres de qui, Eric ? Ce sont des entités indépendantes. Qui est le patron derrière ces organisations ?
Alors, il n'y a pas un patron. Si on prend un petit peu le délit comme une grande pyramide, au sommet de la pyramide, il y a les grands requins blancs. Donc ça, c'est les grands cartels. Essentiellement, en Équateur, vous avez le cartel de Sinaloa et le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Ce sont donc deux cartels mexicains qui ont importé en Équateur leur guerre et leur méthode. Ça fait quelques années qu'on voit apparaître des choses qui avant n'existaient pas en Équateur, des corps décapités, des cadavres pendus au pont, ce genre de choses, des corps démembrés. Donc ça c'est dû au cartel mexicain. Il y a évidemment aussi des groupes colombiens, il y a la mafia calabraise, il y a la 'Ndrangheta, donc la mafia italienne de Calabre, et il y a deux groupes brésiliens, le premier commando de la capitale et le commando Bermejo, qui sont en train d'arriver. Donc ça, c'est au sommet, ça, c'est les grands groupes qui sont extrêmement puissants et dont le business, eux, c'est l'exportation de drogue. En dessous, on a les 22 groupes de délinquance organisés, comme les choneros, Los Fatales, les tigres, les requins, les aigles. Il y en a 22 comme ça qui ont été déclarés comme terroristes. Mm-hmm. Ça, c'est le niveau, disons, intermédiaire. Ils travaillent pour les gangs, donc certains avec Sinaloa, d'autres avec Jalisco. Et en dessous, il y a des centaines de petites bandes là de délinquants. Donc tout ça, ça fait une grande
pyramide.
Pyramide des bandes. Donc je dirais que les choneros, c'est un groupe qui est très puissant, 12 000, 15 000 hommes en armes. Il est, disons, au milieu Et lui travaille pour le cartel de Sinaloa.
Toi qui es sur place en Équateur, Eric, comment vivent les habitants? Tu assistes, toi, régulièrement à des scènes de violence?
Oui, il y a beaucoup de tensions. Ça s'est senti quelques jours après l'évasion de Fito. Toutes les écoles sont passées en virtuel. Les gens ne sortaient plus. Alors déjà, le président qui déclare l'état de guerre interne, quand même. Enfin, soudainement, on s'est réveillé. Ah tiens, on est en guerre. Les taux d'assassinat se sont multipliés en Équateur. Il y a 3 ans, on en était environ à 12 morts violentes pour 100 000 habitants. Ensuite, on est passé à 45. Et là, on est encore en train d'augmenter. On est devenu le pays le plus violent d'Amérique latine, donc en termes de morts violentes, plus que le Mexique, plus que la Colombie. Mais c'est surtout que c'est concentré dans certaines zones. Par exemple, moi, j'étais hier dans un quartier de Guayaquil pour suivre une grosse opération de la police. Ce quartier, ça s'appelle la Nouvelle Prosperina, la Cité de Dieu. C'est plutôt une cité qui a été oubliée par Dieu. Et c'était le 3e endroit l'an dernier le plus violent au monde. La violence est concentrée dans certains endroits, dans des villes comme Guayaquil, comme Santo Domingo, dans tous les ports, par exemple, dans tous les ports d'où exporter la drogue. Donc il y a des endroits où c'est vraiment extrêmement violent. Guayaquil, l'an dernier, c'était 115 morts violentes pour 100 000 habitants. Et donc oui, on voit des choses qu'on voyait pas avant. L'usage des tueurs à gages, c'est maintenant quotidien. Et donc tout ça, ça stresse la population. Alors la population doit continuer à vivre, Aude, hein. Enfin, il faut travailler, oui. Il faut balader le chien. Mais enfin, les gens sont effectivement stressé. Et puis, il y a aussi un problème parce que tous ces gangs ne font pas que de l'exportation de drogue, ce sont aussi des tueurs à gages, et il y a aussi une très très grosse activité d'extorsion. Ici, c'est un joli nom, on appelle ça la vacuna.
Le vaccin.
Donc vous êtes vacciné, soi-disant, contre l'insécurité. Énormément de business, d'entreprises sont vaccinés. Vous avez, par exemple, dans le port de Puerto Bolívar, au sud du pays, 30% des restaurants, des bars qui ont fermé. Les gens ne peuvent plus, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a en ce moment une vague de migration équatorienne vers les États-Unis, parce que les gens, ils ferment boutique et puis ils s'en vont. Donc il y a énormément de gens, et ces gens en fait ne témoignent que très peu. J'ai pu trouver à Guayaquil un vendeur qui a été attaqué 3 fois, on essaie de brûler son magasin, et lui a accepté de témoigner de ce que ça veut dire que d'être vacciné en Équateur.
Ils appellent ça une collaboration pour qu'ils puissent nous protéger, alors qu'en fait ils nous volent. Qui sont-ils pour vouloir nous protéger? Moi, ils me poursuivent depuis l'an dernier, ils m'ont attaqué 3 fois. D'abord, ils ont envoyé une cartouche de dynamite qui n'a pas explosé. La semaine suivante, ils ont jeté un explosif qui a endommagé la porte de mon garage. Mais ici, je vis avec mes enfants, les grands-parents, mais la 3e fois, ils ont quand même mis le feu.
On a vu les images, Eric, de cet hôpital pris d'assaut aussi par une 60aine d'hommes, des narcos qui voulaient récupérer un des leurs. On a aussi cette prise d'otage de journalistes sur un plateau de télévision en direct. Il faut bien s'imaginer la scène, c'est comme si là, en France, un gang prenait d'assaut le plateau du JT de 20h.
Oui, tout à fait, ça a beaucoup marqué parce que c'est devenu visible, ça a duré peut-être un quart d'heure, c'était pas très très long, mais soudainement, tous les gens s'envoyaient sur réseaux sociaux, regarde TC, il se passe quelque chose, et puis on ouvre et on voit des jeunes, parce que c'était de la chair à canon, c'était des petits jeunes, sur les 13 qui ont été arrêtés, il y avait 2 mineurs, les autres avaient entre 20 et 25 ans. Le leader du groupe, il avait un appel vidéo sur son portable, donc il recevait des ordres de quelqu'un. Ils étaient armés, ils avaient de la dynamite, ils braquaient des fusils à pompe sur la tête d'un journaliste que d'ailleurs j'ai rencontré hier, José Luis Calderón, et qui est toujours stressé sur le coup. Il a maintenu le calme avec ses collègues, etc. Mais depuis, il n'est pas allé à la chaîne de TV. Il est d'ailleurs victime de ce fameux syndrome de stress post-traumatique. Il ne sait même pas s'il va retourner travailler à la chaîne de TV. Il ne sait même pas s'il va continuer à faire du journalisme. Je vous propose de l'écouter.
Je n'ai pas dormi récemment. La nuit dernière, par exemple, j'ai eu l'impression qu'on se mettait chez moi. Ma famille m'a dit de déménager, mes voisins sont inquiets. Ils ne veulent pas qu'on sache où j'habite. Mais bon, c'est chez moi. Hier, j'avais l'impression que des fantômes essayaient de forcer ma porte. J'ai peur pour ma vie, j'ai mis des jours à l'accepter. Mais je crois que j'ai besoin d'aide et il faut que je prenne ce syndrome de stress post-traumatique au sérieux. C'est moi qui dois l'affronter parce que c'est mon problème.
Voilà, le témoignage de ce journaliste qui a été pris en otage sur un plateau de télévision. Quelques jours plus tard, Eric, le procureur en charge de cette enquête, César Suarez, a été tué. Les responsables ont été interpellés ou pas ?
Deux personnes ont été interpellées. Ils ont retrouvé, grâce aux caméras qui sont un peu partout dans les rues de Guayaquil, le chauffeur de la voiture qui a amené les tueurs, donc à la hauteur du véhicule du procureur César Suarez, avant de le tuer. Et donc ils ont arrêté le chauffeur, qui les a amenés à un hôtel où il y avait a priori le principal tueur à gages, donc ils l'ont arrêté. Ils ont trouvé des armes, etc., etc. Mais ils ne les ont pas tous arrêtés, et il faut encore savoir qui a commandité cet assassinat. Parce que César Suarez était un procureur très important qui travaillait sur des cas anti-mafia, sur donc cette prise d'otage à TC Télévision, mais c'était pas le dossier le plus important qu'il avait. Donc en fait, il y a beaucoup de monde qui serait susceptible de vouloir sa mort, donc l'enquête est encore en cours, mais il y a encore des, disons, des tueurs à gages et des responsables intellectuels qui sont en liberté.
Alors la situation, globalement, elle n'a pas basculé hein, du jour au lendemain, ça a pris plusieurs années. Selon les pouvoirs publics, comment on peut expliquer cette escalade ?
C'est ce que l'on appelle un narco-État, c'est-à-dire que peu à peu, sans s'en rendre compte, les groupes de narcos ont pris possession du pays. Donc ça a commencé localement, on va corrompre un maire, on va corrompre quelques militaires, des marins pour savoir par où faire passer la drogue, et puis ça augmente, hein. Ça reprend un peu ce que disait Pablo Escobar en Colombie, plomo o plata. Vous prenez une balle, vous prenez du plomb, ou vous prenez mon argent. Mmh. Et donc ça s'est fait peu à peu, mais c'est aujourd'hui très visible. Les gens sont furieux, par exemple, contre la justice équatorienne, parce que vous voyez, mais tous les jours, mais littéralement tous les jours, des gens qui sont arrêtés, des tueurs à gages qui sont arrêtés, parfois en flagrant délit, et le lendemain ou deux jours plus tard, ils sont libérés. Donc la justice, ou en tout cas certains juges, procureurs, ont été achetés par les narcos. Ce que vous disiez, Fito s'est évadé de sa prison quand il a voulu. Il a envoyé sa famille à l'étranger une semaine avant, donc il savait qu'il allait partir. La directrice de la prison est recherchée par la police parce qu'elle est soupçonnée d'être complice, donc il domine un peu tout ça. Et surtout, les gangs ont importé leur guerre. Sinaloa et Jalisco, on le sait, au Mexique, hein, c'est du sanglant. L'arrivée de ces deux groupes brésiliens, le premier commando de la capitale et le commando Bermejo, fait très peur aux groupes locaux, parce que ce sont des groupes très puissants, très violents. Mmh. Et donc on soupçonne que certains ont relancé la guerre des gangs justement pour dominer certains territoires avant l'arrivée des Brésiliens. Donc tout cela fait que l'Équateur, qui était une île de paix, se compare aujourd'hui à la Colombie de Pablo Escobar.
Aujourd'hui, Éric Sanson, l'Équateur, c'est un pays par lequel transite beaucoup de cocaïne, de drogue.
Mais regardez les chiffres. On estime que 800 tonnes de cocaïne transitent chaque année en Équateur. Et pour la troisième année consécutive, l'an dernier, en 2023, les forces de l'ordre, la Direction nationale antidrogue, ont saisi plus de 200 tonnes. Donc l'an dernier, c'était environ 220 tonnes, ce qui est déjà considérable. Ça représenterait environ 30% de la drogue qui circule. Je rajouterai un fait. Il y a une personne qui est en Équateur, est en prison pour blanchiment de narcodollars. Seulement une personne. Et c'est pour ça qu'on écoute dans les quartiers les plus pauvres, où j'étais hier dans la Nueva Prosperina, c'est des quartiers oubliés de Dieu, la police n'y va jamais, et qui te disent, mais attendez, mais les vrais trafiquants, ils sont là, ils sont à Los Ceibos, ils sont dans les quartiers chics, ils sont en Puerto Azul, ils sont là. C'est les politiciens, c'est tous ceux qui se sont vendus pour cela, ça c'est très vrai. Ce qui est intéressant, c'est que là, depuis 10 jours, depuis un peu l'évasion de Fito et la militarisation du pays, il y a des saisies qui sont considérables. Il y a, c'était quand, 2 jours, 3 jours, 22 tonnes de cocaïne ont été saisies dans la ville de Vinces. 22 tonnes, c'était la première fois qu'en Équateur, on arrivait à saisir plus de 20 tonnes d'un coup. Depuis les 10 derniers jours, on en est à 37 tonnes. Alors 37 tonnes en 10 jours, ça je peux vous dire que ça leur fait du mal. Donc effectivement, c'est très vrai, il faut les convaincre d'aller ailleurs. C'est ce que l'on appelle l'effet, alors certains l'appellent l'effet globo, l'effet ballon, et d'autres l'effet cucaracha, l'effet cafard. C'est-à-dire que c'est comme quand vous appuyez sur un ballon, l'endroit où vous émettez de la pression, le trafic se réduit, mais le ballon se gonfle ailleurs. Donc c'est ce qui s'est passé, le gros du trafic, quand il y a eu beaucoup de pression sur la Colombie au moment du plan Colombie à l'époque d'Alvaro Uribe, les cartels se sont dit, bon alors où est-ce qu'on va ? Et puis ils ont regardé vers l'Équateur, et comme l'Équateur en plus était dollarisé, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Donc cet effet ballon, ou cet effet cafard, il faudrait réussir à l'appliquer en Équateur pour qu'effectivement les narcos se disent, ça vaut pas le coup, c'est trop compliqué, on perd trop de cargaison et on va ailleurs. Mais pour ça, on en a pour des années. En tout cas, je peux vous dire que les militaires, ils y vont de bon cœur. J'ai vu des images internes filmées par des militaires dans les prisons. C'est le premier point. Ils sont en train d'essayer de récupérer le contrôle des prisons. Donc à Guayaquil, moi j'ai vu des images. Alors il y en a beaucoup qui circulent, qui a priori sont fausses, mais il y en a qui sont vraies. Moi j'ai reçu d'une source militaire ça. Ils sont tous en boxeur. Les militaires sont là et puis ils les frappent. Hein. Il y a des coups, des choses comme ça. Ça fait plus d'une semaine que les familles n'ont aucun contact avec leurs proches. Elles sont devant la prison, elles protestent. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, au moins de reprendre le contrôle et de montrer à ces groupes l'État est de retour. Mais je crois que chez les policiers qui ne sont pas corrompus et chez la population, on en est arrivé au moment où beaucoup pensent c'est eux ou nous. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le colonel Santa Maria, c'est le chef du district de la Nouvelle Prosperina, c'est un quartier oublié de tous à Guayaquil, et qui nous explique un petit peu la violence qui existe dans cette région.
En 2023, la Cité de Dieu dans la Nouvelle Prosperina était l'endroit le plus dangereux de Guayaquil, de l'Équateur, et pour le taux de morts violentes par densité de population, le troisième le plus dangereux du monde. Alias le Périgourdin était l'administrateur de ce territoire. Il gérait l'argent provenant de l'extorsion, il planifiait les enlèvements et surtout il recrutait des mineurs pour les introduire dans le crime organisé. Il dépendait du groupe des Corenos et travaillait pour les Fatales liés aux aigles.
Le troisième lieu le plus dangereux au monde.
Ah oui, la police n'y va jamais. À un moment, ils ont arrêté un jeune homme et son frère, donc alias le Pingouin. Ils ont trouvé un fusil mitrailleur, des armes, de la drogue, etc. C'était un petit cadre. Mais c'est quand même important de les frapper parce qu'ils dominent des territoires, ils recrutent les jeunes, ils extorsionnent la population qui n'en peut plus, et ils revendiquent leur appartenance. Hein. Vous faisiez écouter le narco-corrido des Queen Michelle, de la fille de Fito. Bon, bah, ce alias Pingouin hier, oui, mais il avait par exemple une grosse chaîne en argent qui disait 100% Chonero. Il avait même fait un poster, c'était joli, pour décorer les murs de sa chambre. Quand il a été arrêté, moi j'ai des photos de lui, il a dans le dos un t-shirt qui dit Escobar et devant ça dit le cartel, The Cartel. Donc au moins on a les rôles modèles que l'on peut, mais il ne se cache pas.
Merci Eric Sanson, le correspondant de RTL en Équateur, pour ton éclairage précieux. Merci à vous, auditeurs, de nous suivre. C'est la fin de ce premier épisode de Focus consacré au trafic de drogue en Équateur. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à écouter d'autres épisodes, dont l'épisode 2, sur RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très bientôt.